Aujourd'hui, la masterclass de Yasmina Reza avec Arnaud Laporte.
Nous ouvrons à présent la masterclass de Yasmina Reza ici à la Bibliothèque nationale de France, partenaire de cette grande collection d'entretiens, tout comme le Centre national du livre. Le principe de cette collection est le suivant, savoir comment un artiste construit une œuvre au sens de la fabrication de celle-ci, de l'idée de départ jusqu'au moment où l'artiste considère l'œuvre comme achevée. Elle et il vont nous raconter le processus de cette élaboration. Alors peut-être avant de véritablement débuter, je vais me permettre de rappeler quelques éléments concernant votre parcours, Yasmina Reza. Rappelez que votre père, homme d'affaires d'origine iranienne, était né à Moscou, que votre mère, hongroise, était violoniste, que vous avez grandi dans la culture juive et on sent dans votre enfance une nostalgie à la fois de la Middle Europa, en même temps qu'un grand amour de la France. Mais dans votre livre Nulle part, vous écrivez « Je n'ai pas de racines, aucun sol n'est de ces fichiers en moi, je n'ai pas d'origine quand je vois dans les journaux iranienne, juive, russe, hongroise, ce sont des mots que j'ai dit ». Je n'ai pas d'origine, ajoutez-vous, on y reviendra peut-être, dire que vous avez passé le bac toute jeune, à 16 ans à peine, que vous êtes inscrit en histoire, mais que, comme vous n'aimez pas la géographie, vous laissez tomber, que vous vous retrouvez en sociologie à Nanterre, dans votre élément, parce que tout était déglingué, dites-vous. On verra si votre élément, c'est la déglingue. Ça, c'est encore une autre question. Vous vous orientez ensuite vers un cursus d'études théâtrales, et de la théorie à la pratique, vous passez le concours d'entrée au conservatoire où vous n'êtes pas admise, mais depuis toujours, il y a l'écriture. Elle commence lorsque vous êtes encore enfant avec des poèmes. Vous en avez gardé de ces poèmes d'enfant, Yasmina Reza ?
Oui.
Ils sont où ?
Ils sont dans, heureusement pour tout le monde, dans un tiroir qui n'est pas ouvert.
Vous l'ouvrez, vous, de temps en temps,
non,
ce tiroir ?
Non.
Vous n'auriez pas nous réciter un de vos premiers poèmes.
J'ai déménagé récemment et j'ai donc ouvert par obligation et refermé aussitôt.
Mais ayant commencé si jeune à écrire, est-ce que vous croyez que ça existe?
Non, je n'étais pas enfant prodige du tout.
Est-ce que ça existe, la vocation?
Ah, vous commencez tout de suite dans le vif. En tout cas, il semblerait, même sans talent d'origine, que j'aimais écrire, oui. Oui, que j'avais à voir avec cette activité, disons.
Et vous en aviez déjà une forme de conscience, enfant, petite fille, quand vous écriviez ces poèmes ?
Non, mais je pense aussi qu'il y avait une sorte de tropisme familial. Vous voyez, mes parents n'avaient pas le français comme langue d'origine. Et ils avaient à cœur, c'est pour ça aujourd'hui je suis assez sensible à toutes ces questions d'identité, entre guillemets, c'est que mes parents, en tout cas, avaient vraiment, eux, le souci de notre intégration à travers la langue. Et le fait d'écrire bien le français, par quelque mode que ce soit, et en l'occurrence la poésie qui était, semble-t-il, mon choix d'enfance, était extrêmement bienvenu. Le moindre petit poème de 3 phrases était enthousiasmait tout le monde autour de moi. Donc voilà, ça m'encourageait. Mais je ne pourrais pas dire nettement plus du point de vue de la vocation.
Mais il y avait une forme de bienveillance autour de l'acte d'écrire, ce qui n'est quand même pas tout à fait anodin.
Il y avait une bienveillance familiale, oui, tout à fait.
Mais c'est malgré tout comédienne que vous aviez envie d'être ? Est-ce que c'était déjà quand même aussi lié à l'amour des mots ? C'était quoi ce désir d'être comédienne ?
Non, je pense là que ça a été une succession de hasards. J'ai donc passé, comme vous l'avez dit, le bac assez jeune. Je ne savais pas du tout ce que je voulais faire. Et je me suis inscrite à Nanterre, au début en histoire, ensuite en sociologie et pourquoi la sociologie ? Parce qu'il y avait à ce moment-là le département de cinéma que j'aimais beaucoup, qui était rattaché à la sociologie. C'était les cours d'Henri Langlois, de Jean Rouch. Et ce département de sociologie était attirant parce qu'il était ouvert sur cette dimension cinématographique. Mais je m'ennuyais, moi, dans le reste des matières. Et il y avait, à l'époque, à Nanterre, ce qu'on appelait un diplôme d'études théâtrales, où je me suis inscrite pour m'amuser. Et il y avait une unité de valeur, comme on disait aussi à l'époque, qui était d'acteur. Enfin, le reste étant très théorique. Et je me suis amusée à faire ce cours. Le prof a dit, mais vous êtes très douée, ça pourrait être pour vous une sorte de vocation. Et je me suis présentée chez Le Coq, qui était une grande école internationale de théâtre. Le Coq m'a pris très jeune, parce qu'en général, il fallait avoir au moins 22 ou 23 ans pour entrer, ce qui n'était pas mon cas. Et puis, de fil en aiguille, voilà, je me suis retrouvée à quitter l'université et à devenir actrice, mais sans vocation du tout.
Là, c'est sûr, pas de vocation.
Oui, non.
Alors, pour poursuivre très rapidement un déroulé du parcours de Yasmina Reza, dire que vous avez été couronnée par un Molière de l'auteur en 87 pour votre première pièce, Conversation après un enterrement, que vous avez triomphé évidemment quelques années plus tard avec Art dans le monde entier, notamment aux États-Unis, où vous devenez le premier auteur non anglo-saxon distingué par un Tony Award. Mais 2010, par contre, Le Dieu du Carnage, nouveau Tony Award, puis une adaptation cinématographique par Roman Polanski. Mais votre écriture, on le sait, elle a beaucoup de facettes. La palette est large. Diariste de la campagne électorale victorieuse de Nicolas Sarkozy, c'était l'aube, le soir ou la nuit. Il y a aussi une mise en scène au cinéma, Chicas, en 2009. Il y a eu des mises en scène au théâtre, Le Dieu du Carnage, Comment vous raconter la partie, et puis là, tout récemment, Bella Figura. Et puis bien sûr, il y a l'écriture de romans, de récits, dont le dernier, Babylone, vous a valu le prix Renaudot. Je fais un aperçu rapide, forcément rapide, Yasmina Reza, mais pour qu'on entre vraiment au cœur de cette masterclass, alors en vous remerciant d'avoir accepté cet exercice de l'entretien, un exercice que vous goûtez assez peu, c'est le sujet de comment vous raconter la partie, donc là on se doute qu'il y a quand même un lien entre vous et cette héroïne, et vous pensez que, alors là je me tire une balle dans le pied, mais qu'un auteur, ce qu'il a à dire se trouve dans ses textes et que l'entretien est forcément superflu.
Si je le pensais complètement, ce serait un peu incohérent d'être ici. En tout cas, sur le texte, je le pense, oui. Peut-être qu'on a quelques éléments complémentaires sur soi à apporter éventuellement, comme ce soir, mais sur le texte même, parce qu'on va sans doute en parler, moi je suis vraiment totalement convaincue qu'on n'a pas les clés de ce qu'on écrit. Et par conséquent, en parler est une falsification profonde pour moi.
Alors effectivement, on ne va pas parler de texte précis, mais peut-être d'une façon de travailler. Pour dire aussi, peut-être une dernière incise, dire qu'on peut distinguer deux grandes veines dans votre écriture, et je schématise, pardon, Yasmina Reza, l'une qui serait satirique, noire, sociologique, exprimée dans Art, dans Le Dieu du Carnage, une autre qui serait plus intime, plus personnelle, autobiographique peut-être, avec des textes comme Conversation après l'enterrement, Un mère clavier ou au cinéma dans Chicas. De plus, il y a chez vous différents registres pour explorer ces veines. On va y revenir, mais alors parlons du point de départ. Le point de départ d'un nouveau texte, est-ce qu'il s'agit pour vous d'une image, d'une lecture, d'une idée ou d'un sujet que vous avez envie de traiter, ou est-ce que les débuts sont toujours différents?
Je vais répondre peut-être par la négative déjà, certainement pas d'un sujet, parce que je ne comprends toujours pas ce que signifie un sujet. Dans la vie, il n'y a pas de sujet. C'est un concept très étrange, le concept du sujet, qui peut-être avoir cours en cours de philosophie, où on développe un thème de la pensée, mais en matière d'art, en matière d'écriture, de fiction, ça n'a aucun sens de parler de sujet. Donc, pour moi, ça ne peut pas du tout être thématique, ça ne peut absolument pas être même théorique, encore moins. C'est un acte qui procède plus du geste du peintre, c'est-à-dire une idée de couleur, une idée de... une sensation. Pour le théâtre, c'est assez clair parce que c'est une scène, et pas tellement une scène avec les mots, mais un lieu où un, deux, trois ou quatre personnages seraient. Et à partir de là, à partir de l'atmosphère même du lieu, j'ajoute les couleurs nécessaires, c'est-à-dire les mots. Mais je ne sais pas du tout jamais où je vais aller.
Mais concernant le théâtre, vous savez tout de suite que ce sera la forme de ce texte-là, ce sera une forme théâtrale, ou est-ce qu'il y a préalablement quand même une idée et après se demander est-ce que ça va être un roman, un récit ?
Non, ça c'est une chose que j'ai toujours su moi-même, je vais écrire une pièce ou je vais écrire un roman.
Mais, pardon, mais ça vient comment ?
Mais je n'en sais rien. C'est-à-dire, ça procède d'une envie qui n'est pas nécessairement... c'est un acte très solitaire d'écrire. Le roman, ça reste solitaire. Le roman, vous écrivez un roman, ensuite vous le confiez à un éditeur, le livre est fait et s'en va dans le monde sans vous. Vous n'avez aucun contact à part faire des entretiens ou faire quelques émissions. Enfin bon, c'est pas, il n'y a pas beaucoup de développement social. Alors qu'au théâtre, on a c'est très très ouvert sur la relation sociale, sur le public qu'on peut toucher du doigt. On voit les réactions, les pièces voyagent. Un texte n'est jamais fini avec son écriture. C'est très différent. Et moi, je pense que l'envie d'écrire du théâtre procède plus d'un désir social que d'un désir... Tout à coup, si j'ai envie de voir du monde, je vais aller écrire une pièce. Je sais que c'est un peu décevant d'entendre ça, parce qu'on pourrait se dire... Elle veut écrire une pièce parce qu'elle sait que c'est la bonne forme, mais non. J'ajouterais là-dessus que je pense que, de toute façon, tout le désir qu'on peut avoir de produire quoi que ce soit... pièce, théâtre, peinture, film, n'est pas du tout chimiquement pur. C'est pas, on se réveille pas en se disant « je suis un artiste qui doit apporter au monde telle ou telle chose ». C'est un désir beaucoup plus trouble, plus complexe, difficile à analyser pour soi-même, mais qui est un désir... oui, quand je dis pas chimiquement pur, je veux presque dire... désir d'exister, désir d'être loué, désir d'être admiré, désir de produire quelque chose qu'on va aimer. Les gens qui vous disent non, 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 ça n'est pas comme ça, mentent. C'est comme ça. Et je dirais que plus c'est comme ça, plus on a de chance d'être à la hauteur de ce qu'on veut faire. Parce que une fois que c'est dit ça, c'est le désir de se projeter, après, on s'efforce d'être à la hauteur de ce désir-là. Mais le désir de départ, il est... Je ne crois pas qu'il est, comme aucun désir d'ailleurs, chimiquement pur, sur le plan de l'élan. Enfin, pardon, j'ai parlé un peu trop long. J'ai répondu
pas
trop
du tout,
longuement.
Mais ça ouvre au contraire plusieurs pistes. Alors il faut en choisir une, mais peut-être parler de la façon dont un texte nouveau est en réaction au précédent. Alors en réaction, soit en creusant le même sillon, soit au contraire en... C'est-à-dire de rebattre les cartes. Dans votre cas, il y a la dimension sociale, on a compris. Peut-être que l'écriture d'un roman vous incite ensuite à revenir au théâtre pour retrouver une vie. Mais au-delà de cela, et dans ces différents types de formes, il y a quand même des thématiques que nous, lecteurs ou spectateurs, nous ressentons comme étant les vôtres. Alors, ce sont évidemment des relations d'être humain à être humain. Quoi d'autre, me direz-vous ? L'amour, quoi d'autre, me direz-vous ? Mais est-ce que vous avez le sentiment qu'un texte, il s'écrit en réaction par rapport à un autre ?
Il y a plusieurs choses dans ce que vous venez, dire. Donc je vais répondre à la toute fin. Évidemment qu'il y a cet aspect-là de réaction par rapport aux autres. Moi, j'ai eu la chance, une fois que ma première pièce a été produite et jouée, d'une façon très réussie artistiquement, je le dis d'autant plus que je n'y étais pour rien. Enfin, je n'ai pas fait la mise en scène ni choisi les acteurs, qui étaient conversations après un enterrement. Après des années de disette, où j'ai eu un mal fou à m'imposer, il ne faut pas du tout penser que j'ai écrit une pièce et que tout le monde l'a voulu, pas du tout. Ça a été très long, très dur, laborieux, mais il se trouvait que cette première pièce a eu vraiment un grand succès, une fois qu'elle a été montée. Et j'ai été louangée, j'ai eu des prix, elle a tout de suite été traduite, et la joie a été au rendez-vous, mais la terreur, tout de suite après aussi, qu'on puisse attendre de moi la répétition du même. Et j'ai tout de suite pensé que je ne devais pas recommencer dans cette même veine. Et j'ai toujours été animée par cette anxiété de souscrire à un désir qui ne serait pas le mien, qui serait de répéter le succès, on ne peut jamais répéter le succès, mais de répéter ce qui pourrait avoir été à l'origine du succès. Bon, ça a été évidemment... particulièrement vrai après Art. Et après Art, j'ai écrit, quoi ? Des années plus tard, Amer Clavier, c'est-à-dire un livre follement souterrain, sur des petites descriptions de mes enfants, de mon père mourant, enfin, quelque chose qui était voué à ne pas être lu, et qui d'ailleurs maintenant a eu longue vie, mais sur le moment, c'est très peu vendu, et n'a pas eu... Mais ça m'a beaucoup apaisé, ça m'a recalé, si vous voulez. Parce que une fois qu'on devient une personne qui a été écoutée, qui a été entendue, qui a eu des retours, là aussi, pour reprendre l'expression de l'impureté chimique, on ne peut pas faire fi de ce qu'on a entendu sur soi. On se sait devenir quelqu'un extrêmement dangereux, très périlleux de... Parce qu'on devrait tout le temps, et d'ailleurs j'ai assez bien réussi, ça je crois, être dans une très grande insécurité, parce que c'est le ferment des choses de qualité, l'insécurité. Si vous vous dites « je suis comme ça », c'est aussi pour ça que je n'aime pas beaucoup parler. Là, on parle dans la généralité de l'acte créatif, donc ça me va assez bien, je peux dire des choses sans danger. Mais si je deviens une explicative sur moi-même, je vais m'enfermer sur ce que je crois être, qui va être faux et mensonger, mais ça va m'emprisonner. Donc ça me fait peur aussi, ça.
Oui, pour autant, Yasmina Reza, les années passant, les textes s'accumulant, se dire qu'à chaque fois, il faut faire quelque chose que vous n'avez jamais fait, ça pourrait être une route très dangereuse et tout aussi stérile. Est-ce qu'il y a quand même des pas qui reviennent sur d'anciens pas, quand même, au fil des années ?
Force est de constater que j'ai tout le temps dit la même chose.
Donc, mais différemment.
Oui, voilà. Alors, j'essaye de faire des progrès et de me diversifier dans la forme. Parce que si je me retourne, je ressasse tout le temps les mêmes thèmes. Les personnages sont sous des masques très différents, au fond pas si différents que ça. Je pense avoir fait quelques progrès à certains égards. Mais non, si on est honnête avec soi-même, on ne va pas chercher ce qu'on n'est pas non plus. Donc je creuse forcément un sillon personnel, parce qu'il y a aussi une dimension de l'écriture. J'ai parlé que de la dimension externe, mais il y a bien sûr une dimension interne, c'est-à-dire une dimension, une fois que le désir de produire est établi, lui étant impur, il y a après quelque chose de beaucoup plus entre soi et soi, qui est plus profond, plus direct, plus essentiel, il faut bien le dire, et qui là touche à des obsessions personnelles, à des manques, à des chagrins, à des... C'est un sauvetage, l'écriture. Moi, j'ai toujours pensé que l'écriture me sauvait de tout.
Quand vous parlez de progrès, du coup, c'est une notion qui peut paraître un peu mystérieuse, est-ce que ça veut dire que vous vous sauvez mieux au fil du temps ? Est-ce que ce progrès, il est de cet ordre-là ? Ou c'est progrès vraiment dans la fabrication ?
C'est progrès dans la fabrication. Par exemple, pour vous donner une idée de ce que j'appelle, moi, progrès, pendant très longtemps, si j'avais quelque chose d'un ordre avec un peu d'amplitude à exprimer, je prenais un personnage d'homme. Parce qu'il y avait un masque qui me permettait de dire les choses, d'utiliser un niveau de vocabulaire qui n'était peut-être pas celui que j'aurais osé faire pour une femme, de peur d'être assimilée. Ce qui est un défaut. Maintenant, je l'ai plus, ce défaut-là. J'ai réussi à tuer un personnage, ce qui est mieux. J'ai réussi à faire des trucs que je n'étais pas capable de faire au début. J'avais une empathie peut-être un peu trop grande pour... Enfin, c'est peut-être pas considéré comme un progrès pour les gens, d'ailleurs, pour ceux qui me lisent. Sûrement pas, puisque je rencontre sans cesse des gens qui me disent « Bon, aujourd'hui, ça m'est arrivé. Vous savez, j'aime beaucoup ce que vous faites. J'ai pas tellement aimé Babylone, mais Art était tellement génial. » Donc, bon, si on s'en tient là, on fait pas... C'est idiot, cette idée de progrès, parce que les gens préfèrent souvent des choses anciennes et... Mais soit on s'imagine qu'on progresse.
Mais est-ce que le progrès, il est aussi dans la méthode de travail ? Est-ce qu'il y a une méthode de travail, Yasmina Reza ? Est-ce qu'il y a une discipline, des horaires, des lieux pour écrire, des rituels ?
Pas tant que ça, en réalité. Pas tant que ça. Parce que j'ai toujours préféré la vie à l'écriture. Si je suis en train d'écrire et qu'un coup de fil survient et me propose un truc mieux... C'est très rarement, je dirais non.
Ça peut être quoi, un truc mieux qu'écrire ?
Plein. Tout. Tout est mieux. J'ai le temps pour écrire. Vous voyez, c'est pas... Je suis toujours étonnée qu'on aille écrire comme au bureau. On peut écrire à n'importe quelle heure. C'est une activité merveilleuse. C'est une activité d'une liberté incroyable. Qui ne demande pas d'horaire spécifique, qui ne demande pas de lieu. Moi, je peux écrire... Les plus belles choses, à mon avis, que j'ai écrites étaient dans des aéroports, dans des trains, dans des endroits d'empêchement, en réalité. Moi, j'avais toujours été frappée par... J'aime beaucoup Glenn Gould, et donc j'ai beaucoup lu sur lui. Et quand il était dans l'apprentissage du piano, comme adolescent, mais encore chez lui, les moments qu'il préférait, c'est quand il y avait l'aspirateur qui passait à côté, parce qu'il avait du mal à s'entendre et il devait se concentrer terriblement. Mais moi, je ressens un peu ça pour l'écriture. s'isoler toute seule dans un endroit qui n'est pas isolé. J'ai une faculté de concentration qui me le permet, et donc il n'y a pas tellement de rituel. Non.
Mais du coup, quand vous êtes dans un moment d'écriture, c'est un moment où les choses semblent un peu se tarir, où c'est plus compliqué. Alors, vous pourriez soit aller dans un aéroport pour vous dire c'est le bon endroit pour écrire, soit vous dire je vais effectivement aller faire du shopping et ça reviendra plus tard. C'est un problème ou pas si un jour la productivité, au sens de produire du texte, n'est pas au rendez-vous?
Ça arrive tout le temps. La productivité est très rarement au rendez-vous. Non, il faut peut-être... Si, quand même, je ne voudrais pas dire, parce que ce ne serait pas juste, que c'est n'importe quoi. Il y a un moment qui est très difficile, mais il y a quand même une impudeur à dire ça, parce que personne ne vous demande d'écrire. Donc, de dire c'est très difficile, on s'en fiche. T'as qu'à pas le faire. Donc, je veux dire, c'est curieux de dire une chose pareille. Mais bon, disons-le. C'est quand on a envie d'écrire, qu'on a une vague idée, que quelque chose vous démange, vous semble devoir pour vous être fait, mais il faut mettre en place la structure. C'est là qu'il faut choisir les personnages, choisir leur nom, le truc le pire, le métier. Le métier peut me prendre des jours et des jours.
Pourquoi ?
Parce que c'est très définissant, un métier. Babylone, j'avais l'idée d'une scène, j'avais l'idée un peu du livre, de l'immeuble, des personnages comme ça vaguement, et je butais sur le métier de la narratrice. Il me fallait un métier un peu scientifique, mais pas prof, pas chercheuse, c'était trop, vous voyez, parce que ça définit énormément de choses. Avec le métier, vous pouvez dire aussi, pas seulement la classe sociale, mais un cursus. Qu'est-ce que c'est le tous les jours de quelqu'un? Le métier, c'est très très important. C'est ce qui nous constitue, d'un point de vue temporel, en tout cas, plus que n'importe quoi. Les trois quarts du temps y est consacré. C'est beaucoup plus important que blonde, brune, grosse ou. Donc ça me prend un temps fou et c'est fastidieux. C'est pas de l'écriture, c'est de la recherche. Tout ce moment-là a besoin quand même d'être posé, d'y revenir un peu tous les jours. Mais une fois que c'est parti, c'est-à-dire qu'on a écrit les premières pages, qu'on est lancé comme une espèce de torche qui va enflammer le reste, et que voilà, il n'y a plus de danger. Enfin, il y a le danger d'avoir des jours où c'est lamentable et où on n'a aucune... Mais on sait que le lendemain, ça reviendra. Enfin, il n'y a plus... Moi, je me fais assez confiance quand même. Quand je suis partie dans quelque chose, je me dis, j'irai au bout, quoi qu'il arrive, quelque temps que ça me prenne. Je ne me suis jamais mise dans la circonstance non plus de devoir rendre un texte à telle date. Sauf pour Bella Figura, pour Ostermayer, c'était une commande. Mais c'est rare que j'ai fait ça. Je ne veux pas qu'un éditeur me dise, je veux le livre pour telle date. Non. Mais j'ai eu de la chance aussi. C'est que j'ai eu de la chance de pouvoir passer outre ça.
Et dans le processus de travail, Yasmina Reza, il y a la place des autres arts. Alors la musique, on le sait, est importante pour vous. Est-ce qu'il en est de même du cinéma, des arts plastiques? Et à quel moment est-ce que ça peut nourrir? Est-ce que c'est en amont ou est-ce que c'est aussi en cours d'écriture? Si tout d'un coup, voir un film ou aller voir une exposition, ça peut compter dans l'écriture?
Oui, bien sûr. Non, c'est en amont, mais c'est aussi pendant, bien sûr. Quand on écrit, on prend tout. Tout. Moi, j'aime lire pendant que j'écris. J'aime aller au cinéma, écouter de la musique. J'aime tout quand j'écris. Rien ne me gêne. Enfin, si, je suis influencée, oui. Mais j'aime être influencée. On n'a pas besoin... Enfin, on a. Je sais pas pourquoi, tout à coup, je dis « on ». Parce que vous allez faire toute une série avec des gens qui vont dire le contraire. Je n'ai pas besoin de m'isoler parce que je me fais confiance, en fait.
Mais la tonalité, la couleur d'un texte nouveau, elle se trouve de quelle façon? Elle se trouve en écrivant ou est-ce que ça fait partie aussi de l'idée de cette petite chose de départ, ce plaisir chimique, ce désir chimique impur de départ, Yasmina Reza?
J'ai commencé par écrire du théâtre, qui n'est pas anodin. Pendant longtemps, je n'ai pas écrit des textes qui étaient voués à la simple, au livre. Quand vous écrivez du théâtre, c'est un petit peu différent parce que il y a forcément, qu'on le veuille ou non, un destinataire, enfin des destinataires. Donc je me suis toujours mis dans la position de l'audience, du spectateur. J'ai toujours écrit ce que j'avais envie de voir. Je suis la première rieuse si je dois rire, je suis la première chagrinée si je dois être chagrinée. Je contemple ce que j'écris et je me dis oui ou non. Ça va provoquer telle émotion. Et je ne me pose pas d'autres questions, en fait. Si moi, je me dis, je voudrais bien voir ça et rire, ou je voudrais bien voir ça être émue, et que ça marche sur moi, je pense que ça va marcher sur les autres. Je ne sais pas si je réponds bien à la question, là, mais...
Pour partie, mais ça en amène une autre, Yasmine Arreda, donc c'est comme ça que ça nourrit aussi notre entretien, parce que on parlait de produire un effet, finalement, d'abord sur vous, et ça produira peut-être un effet sur l'autre, sauf que chez vous... pour vos lecteurs, vos lectrices, on sait qu'il y a le goût du non-effet. Il y a l'écriture très simple, qui doit donc être très juste, pour que l'air de rien, l'effet soit produit. Est-ce que, pour le coup, il y a quelque chose de l'expérience de comédienne, de celle qui a eu les mots d'autres en elle, qui les a adressés ? Est-ce que ça fait partie de ce qui a nourri votre écriture, je dis non-effet pour schématiser ?
Définitivement. Je pense que... Les années d'actrice ont été totalement essentielles dans l'écriture. Ça m'a fait comprendre à quel point les mots étaient peu importants. Les mots, je l'ai dit, je l'ai même écrit dans conversation, dans comment vous raconter la partie, c'est des parenthèses du silence. Les mots sont là pour introduire tout autre chose que les mots. Et ça, je l'ai compris, moi, en étant comédienne. C'est pour ça que souvent, quand les écrivains passent... à écrire du théâtre, d'écrire une littérature, ils sont moins à l'aise parce qu'ils n'ont pas toute la batterie de « pensait-il, dit-il, en fermant la porte » et tout ça. Il n'y a pas au théâtre, c'est de l'échange verbal, le théâtre. Sans didascalie de la pensée. Donc, ça m'a conduit à la grande économie, mais c'est aussi mon goût personnel. Moi, quand vous dites pas d'effet voyant, évidemment un effet, parce que d'ailleurs, je pense que le secret de l'écriture pour moi, c'est j'écris quelque chose et puis je vais tailler dedans, je vais enlever, je vais élaguer comme un rosier. C'est-à-dire, je vais trouver le maximum d'air, de clarté pour que l'effet aéré se produise. Moi, je recherche l'aération. Tout vient de la chose aérée. Quand c'est étouffant, il ne se passe rien pour moi. Et ça vient vraiment du théâtre.
Alors vous évoquiez les didascalies, Yasmine Arreza, c'est l'indication qu'un auteur de théâtre doit écrire en marge des dialogues, qui selon les auteurs ou selon les cas sont plus ou moins précises, doivent être plus ou moins indicatifs pour les mises en scène à venir. On cite toujours comme exemple les didascalies de Beckett et son intransigeance à suivre très scrupuleusement les didascalies. Chez vous, Yasmine Arreza, elles sont beaucoup plus subtiles et peuvent du coup donner lieu à des interprétations très différentes, mais ça, j'imagine que c'est un désir que vous avez de laisser une latitude aux metteurs en scène à venir, justement de ne pas figer le texte, de le laisser s'aérer toujours.
Oui, parce que d'abord l'expérience me prouve que personne ne suit les didascalies. Mais vous savez, je viens de vivre une chose assez intéressante en ce moment, enfin ça vient de commencer, j'ai mis en scène moi-même en français Bella Figura, je dis en français parce que c'était Thomas Ostermayer qui l'avait fait en allemand. Et donc, je mets en scène ma propre pièce avec des acteurs que j'ai choisis. Et les acteurs, pendant tout l'espace des répétitions, me disaient « Tu sais, il y a écrit là, et me citait une ou deux didascalies. » Et je lui disais « Mais on se fout totalement de cette didascalie. » Non, mais elle est intéressante. C'est-à-dire, il me rappelait ce que l'auteur, c'est-à-dire moi, avait écrit et que le metteur en scène...
Vous aussi, donc.
Moi-même, dont le metteur en scène voulait se débarrasser sur le champ. Donc j'ai raison de ne pas en écrire trop, parce qu'un metteur en scène digne de ce nom, il fait avec la matière que les acteurs apportent et ce qui se passe au moment voulu. Alors il y a quelques didascalies qui sont fondamentales, parce qu'elles font partie de l'événement. Mais par exemple, ce qui est intéressant, c'est que dans mes textes, pour les silences qui là sont notés, j'écris pause, silence,
un temps.
Flottement, un temps. Et Ostermayer, qui a traduit Bella Figura, me dit « Peux-tu me dire la différence entre pause, flottement et un temps ?» Parce qu'il voulait, ne serait-ce que pour traduire en allemand. Et là... Et je sais que ça existe pourtant, vous voyez. C'est pour ça que je dis qu'on n'a pas les clés, même des choses élémentaires qu'on produit. Mais je ne vais pas mettre silence quand je vais mettre flottement. Flottement, et si on me pousse, je vais pouvoir l'expliquer. C'est-à-dire flottement, c'est un moment... C'est pas seulement un silence, c'est qu'il va y avoir de la gêne aussi. Il va y avoir... Vous voyez, c'est...
Mais poser un temps.
Ben là, c'est un truc esthétique que je ne saurais pas développer.
Mais quand vous avez mis en scène vous-même non, votre propre texte, Bella Figura, vous avez regardé s'il y avait marqué un temps, pause ou flottement ?
Pour être tout à fait, pour être tout à fait honnête, je n'écris jamais pause. Donc,
c'est un temps ?
Si c'est un temps. Mmh. Ouais. Un temps égale pause. Ben, c'est des termes musicaux, d'ailleurs.
Ben oui,
ouais, termes
on y
musicaux.
Revient, la musique,
ben oui,
mais...
Parce que tout ça est très musical, c'est pour ça que ce n'est pas explicatif.
Et que permet le théâtre, Yasmina Reza, en dehors de la vie sociale, que ne permet pas le roman ou la nouvelle, et inversement ?
La métamorphose. C'est-à-dire, je vais prendre des grands exemples, je vais sortir du cas Reza pour prendre le cas Shakespeare qui n'a absolument rien à voir et qui y a eu dans l'histoire des dizaines de Richard II, d'Hamlet, de Roméo. C'est-à-dire qu'un personnage est écrit par un auteur et dans un cas comme celui de Shakespeare, qui est un cas très heureux, subit non seulement des métamorphoses de son temps, mais des métamorphoses dans la nuit des temps. C'est-à-dire, vous vous rendez compte de la pérennité du personnage de théâtre. C'est grandiose. Il a 40 visages, il a 40 vies différentes, 40 langues. Le personnage de théâtre atteint une dimension qu'aucun personnage de littérature peut atteindre, ni aucun personnage humain. Personne n'a cette longévité et ce côté Janus multiplié par à l'infini. Alors, bien sûr, il s'agit de Shakespeare, de Tchekhov, et qu'on serait dingue de prétendre à ce genre de pérennité avec ses propres personnages. Mais la petite, non pas pérennité, mais la petite, disons, je ne trouve pas le bon mot, j'ai quand même eu la chance folle d'avoir mes pièces montées, moi, assez souvent de mon vivant, rien que ça, ça m'a fait voir des personnages très développés, ne serait-ce qu'avec la pièce qui s'est peut-être, avec le dieu du carnage le plus monté, art. Il y a eu déjà des dizaines et des dizaines de Marc, Serge et Yvan que j'ai pu regarder sur Internet en m'amusant dans toutes les langues. Et ça, vous n'avez pas avec la littérature.
Ça vous provoque quel type de sensations ou d'émotions de voir ces différents interprètes de vos personnages ?
C'est rigolo. C'est, on ne va pas pleurer. Enfin, c'est joyeux. En même temps...
Il y a une étrangeté quand même, il y a un moment donné.
Il y a une étrangeté, ouais. Oui, une grande étrangeté. Oui. Oui, il y a une étrangeté parce qu'on n'a pas prévu tout ça. Quand même, quand on écrit, on est un peu... Il y a une forme de réalisme. On n'imagine pas déjà plusieurs visages sur un personnage. On le distingue plus ou moins, mais on lui accole pas plusieurs visages. C'est impossible. On pourrait pas poursuivre le personnage si on l'imaginait déjà multiforme. Donc on l'imagine uniforme. Et le voir prendre des allures tellement diverses, habillé tellement différemment, avec des âges différents souvent... C'est vraiment amusant.
Oui, mais on pourrait dire que la force du roman, ce serait que pour chaque lectrice, chaque lecteur, pour le coup, ce soit un visage différent. Et que donc, alors là, ce ne sont plus des dizaines et des dizaines, mais des milliers et des milliers de vos personnages qui existent dans l'esprit de vos lecteurs.
C'est vrai, mais ce qui se passe dans l'esprit est plus opaque, comme nous le savons. Donc, ça, je n'y ai pas accès, moi.
Alors, c'est quoi la force du roman par rapport au théâtre pour vous, Yasmina Reza ?
Moi, ça, je suis incapable de répondre. La force du roman, je ne peux pas répondre. Je ne suis pas sûre que le roman soit plus fort que le théâtre, ou inversement. Dans ma vie de lectrice, j'ai été autant bouleversée, par exemple, par Oncle Vania de Tchekhov, pour moi, Tchekhov étant le plus grand de tous, que par... Léo d'Hurlevent d'Émilie Brontë, qui pour moi est un livre majeur. Je ne peux pas honnêtement faire de distinction de genre. C'est impossible.
Alors, on en revient au processus de fabrication, Yasmina Reza, et aux différents états d'un texte. Alors, vous l'avez dit, écrire pour vous, c'est beaucoup enlevé. Mais est-ce qu'il y a des regards extérieurs? Est-ce qu'il y a des états de manuscrits, alors que ce soit pour le théâtre, pour les romans, que vous faites lire, et à qui? Et ça sert à quoi?
Il y a toujours eu des regards extérieurs qui sont fondamentaux, qui, avec le temps, évoluent, parce que ce n'est pas forcément toujours les mêmes. Il y a des critères pour ces regards extérieurs qui sont, je peux vous les donner si ça vous amuse. Il y en a très peu, une ou deux personnes ou trois personnes. Le critère numéro un, c'est d'adhérer à ce que je propose en général, évidemment. C'est qu'il faut qu'il y ait une grande bienveillance, non pas vis-à-vis de moi, mais vis-à-vis de l'écriture. Ça ne peut pas être des gens qui ne sont pas des amoureux de ce que j'écris, parce que ce serait trop dangereux de donner à lire à des gens qui auraient déjà l'esprit critique en amont. Mais des amoureux, ça veut dire des amoureux ultra exigeants, qui sont capables d'avoir vis-à-vis de moi la plus grande liberté et de me dire de m'arrêter tout de suite dans une errance, ce qui arrive souvent, hein, et d'être capable de me le dire sans le moindre gant. Et de me donner un certificat de fin. Parce qu'on ne sait pas, c'est très difficile de savoir, et plus ça va, plus c'est difficile, le degré de finitude d'une œuvre. Parce que je pense qu'on termine par épuisement. Moi, je ne pense pas qu'on termine parce qu'on se dit, voilà, je produis un chef-d'œuvre et je mets le point final. Non, on est très insatisfait, on pense qu'on aurait pu faire mille fois mieux, mais tout à coup, on n'en peut plus. Et on ne peut plus aller plus loin. Donc il faut que quelqu'un vous délivre ce certificat de fin, de bonne fin. Et ça, plus ça va, moi je suis capable de me le délivrer. Donc j'ai une lectrice depuis quelques temps qui est toujours la même et qui est de plus en plus méchante et exigeante. Et j'ai mes enfants. J'ai deux enfants, maintenant adultes, qui pour des raisons très différentes d'ailleurs, l'un et l'autre, sont des lecteurs très avisés. Et pas du tout complaisant. Et ils lisent au fur et à mesure. Alors eux ne me délivrent pas le certificat de finitude. C'est elle qui est ma lectrice, qui est plus... Si vous voulez, c'est vraiment une directrice littéraire. Mais mes enfants, instinctivement, je leur montre des pages comme ça. Ils me disent, oui, mais là, je ne comprends pas. Là, ceci, là, cela. Et ça m'aide beaucoup. D'ailleurs, je ne pense pas qu'on puisse écrire seul. Ce n'est pas possible. Plus ça va, plus on a besoin d'être contrôlé. Enfin,
mais vous pouvez quand même remettre en question les avis qu'on vous délivre.
Parfois, je suis exaspérée. Parfois, je montre quelque chose qui me semble excellent et je m'entends dire, mais ma pauvre, ça ne va pas du tout. C'est lourd. Tu l'as déjà dit 20 pages avant. C'est bizarre. Et là, on se blesse. Et on lutte. Mais c'est ce rapport-là qui est très fécond, évidemment. Et c'est que je n'accepte pas comme un enfant... des écoles, oui, maîtresse. Non, 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 c'est une lutte. Parfois, je gagne, mais pas souvent, parce que j'ai choisi cette lectrice pour sa pertinence, donc ça m'inquiète. Ça m'inquiète si elle n'est pas parfaitement satisfaite. Et quelquefois, ni elle ni moi ne gagnons, mais ça m'emmène ailleurs, ça m'oblige encore à... Et aussi, une autre qualité, c'est que ça ne peut, je n'ai jamais pris mes éditeurs comme lecteurs, non pas, mais à cause de leur fonction, parce qu'ils sont intéressés par le livre. Il faut qu'il y ait du désintérêt. Il ne faut pas qu'il y ait un intérêt annexe, qui est quand même l'intérêt un peu commercial des éditeurs. Et c'est normal, c'est la moindre des choses. Pour moi, ça ne peut pas être valable, leur avis.
Et est-ce que vous aimeriez, Yasmina Reza, retoucher une de vos œuvres? Est-ce que ça vous est arrivé pour le théâtre, par exemple? Les pièces sont reprises, vous en avez changé des phrases parfois?
Et c'est une question intéressante parce que j'en ai éprouvé.
Enfin une.
J'en ai non, pas du tout. Non, 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 non. Mais j'en ai éprouvé l'impossibilité de faire ça. Quand à un moment donné dans ma vie, j'ai changé d'éditeur. Au début, je commençais avec Actes Sud. Ensuite, j'étais chez Albin Michel pour une partie de mes textes. Et Albin Michel m'a proposé de rééditer des textes de théâtre qui avaient été publiés dans la collection papier, qui était une collection qui était plus des fascicules que des livres. Et je me suis dit, ah chic, je vais pouvoir corriger des erreurs, des choses que je n'aime plus du tout. Profiter de cette réédition. Et ça a été totalement impossible. Parce qu'on évolue. Et la personne qui allait se mettre à corriger était déjà plus la même écrivain, plus la même personne, plus la même... Donc, c'est pas un mot qu'il fallait corriger, c'est tout, le tout. Donc, ou bien je réécrivais comme tel Claudel la pièce, ou bien elle restait comme telle. Et j'ai jamais pu corriger, jamais, jamais, rien. Non pas que je ne vois que des qualités, c'est le contraire, mais c'est comme ça.
Mais c'est comme ça qu'on écrit de nouveaux textes, peut-être.
C'est comme ça, dans l'espoir de... Enfin, dans l'espoir que je n'ai plus, hein, d'écrire le truc essentiel et définitif. Mais bon, maintenant je sais que ça n'existe pas.
À l'inverse, est-ce qu'elle a peur aussi que la source se tarisse?
C'est la grande peur. C'est la peur... Ah oui, c'est une peur énorme, qui est une peur ridicule, parce que... Enfin, ridicule pour soi. Elle ne vaut que pour soi, cette peur, parce que si on n'écrit plus, ça n'a aucune importance pour personne. Personne ne vous demande d'écrire, car personne ne vous demande d'écrire, il faut bien le savoir. Et mais c'est vrai, parce que si ce n'est pas vous qui écrivez quelque chose qui va être bien, quelqu'un d'autre va le faire. Et le temps qu'on aura consacré, qui aurait été consacré à votre œuvre, va être consacré à une autre. Ce serait une folie de penser qu'on est nécessaire. On n'est pas nécessaire, mais on est nécessaire à soi pour vivre. Moi, je suis nécessaire à moi-même pour continuer à être heureuse. Et je suis heureuse quand j'écris. Donc je suis terrorisée à l'idée... De me trouver devant une page ou un truc d'ordinateur et de me dire « mais ça y est, c'est fini ». Et je sais que ça peut arriver, j'en suis certaine. J'ai vu pour d'autres, j'ai vu des gens qui auraient dû s'arrêter et qui ne l'ont pas fait. Alors je sais bien qu'on peut dire « mais non, de leur point de vue, ils ont le droit de faire des trucs moins bien et de ne pas s'arrêter, pourquoi ?» Mais moi, je ne veux pas ça pour moi. Je ne veux pas... qu'on puisse dire, c'est un sommet d'orgueil, j'en suis très consciente. Heureusement que je ne fais pas des interviews tous les jours, parce que... mais je ne voudrais jamais qu'on puisse dire... elle écrivait très bien dans les années 80, et la pauvre aujourd'hui... voilà, non. Non, c'est pas possible. Je ne peux pas me projeter comme ça. Donc j'essaye toujours de faire au mieux et d'être à la hauteur. Et les lecteurs servent à ça aussi. Je leur demande... est-ce que c'est pas moins bien? C'est une question que je pose tout le temps. Est-ce que c'est pas moins bien que tel truc avant? Est-ce que c'est pas moins bien? Et si on devait me dire que c'est moins bien, je ne produirais pas, je ne le ferais pas.
Oui, mais tout de même, est-ce qu'il n'y a pas quand même, Yasmina Reza, une... Alors, est-ce que c'est une nécessité ou est-ce que c'est un besoin de l'écriture? Est-ce que quand vous passez un certain temps, parce que... il y a la promotion d'un livre ou le tournage d'un film qui prend un temps fou, il n'y a pas d'écriture, est-ce qu'il n'y a pas un manque?
Si, si, bien sûr. Mais c'est un manque, parce que c'est une chose vitale pour moi. C'est comme ça que je vis. Donc il y a un manque. Au fond, je ne suis jamais aussi joyeuse que quand je suis dans un processus d'écriture. Le reste de la vie, la promotion m'ennuie à mourir. Ça ne m'intéresse pas du tout de promouvoir. C'est pas du tout. Ça ne m'intéresse même pas tellement, pour être tout à fait honnête, d'aller voir mes pièces jouer. Une fois, ça va. Je sais que c'est valable, je l'ai vu, voilà, c'est bon. Je ne suis pas tellement intéressée par... dès que j'ai fini quelque chose, je ne suis plus intéressée par cette chose. Ce qui m'intéresse, c'est la chose suivante. Et être dedans, faire, c'est faire qui m'intéresse. Et si un jour je suis handicapée, si je ne peux plus le faire, parce que je pense que je le sentirai, hein, je pense que je verrai très vite que je me répète, que c'est plus ça, que j'ai... Voilà, je me suis tarie. Et c'est très mystérieux, ce tarissement, parce que pourquoi on serait tarie? On continue à vivre, on continue à éprouver, à... Et c'est là où le mystère est total, c'est que c'est pourquoi on a quelque chose à dire un jour et pourquoi on se tarie le lendemain, c'est absolument pas explicable. Il y a quelque chose en soi qui n'existe plus. Et comme toute chose dans l'être se tarie, tout se tarit, un jour ou l'autre. La vue baisse, on marche moins bien, on se tarit. Il n'y a aucune raison pour que l'énergie vitale et impure qui nous fait faire des choses valables ne se tarisse pas. Donc c'est une sorte d'épée de Damoclès, mais pas plus qu'une autre. Un jour, on marche moins vite, un jour, on court moins vite. C'est la chanson merveilleuse de Bachung.
Oui, vous avez commencé un segment de phrase, Yasmine Areza. Si j'ai une forme d'empêchement, un handicap qui vous empêche d'écrire, vous êtes resté en suspens, pour le coup, sur cette phrase.
Je me souviens plus de ce que je voulais dire, mais je veux dire, si ça arrive, j'en serais malheureuse, c'est sûr. Mais on m'entendra plus, c'est sûr aussi.
Les textes faits, finis...
Mais cela dit, en disant ça, je me dis... Peut-être des gens considèrent déjà que j'ai écrit 2-3 trucs en trop. Vous voyez, c'est aussi un subjectif comme...
Alors justement, parmi ces gens, il y a la question de la réception critique de votre travail, Yasmine Areza. Vous dites que quand un livre est fini, ben, vous pensez au suivant, mais tout de même, la réception critique, est-ce que ça vous importe ?
Mais évidemment. Là aussi, je ne pense pas qu'il existe sur Terre quelqu'un qui produit quelque chose et dont la réception critique n'a pas d'importance. C'est extrêmement important. On fait une activité qui vaut au suffrage extérieur. Le suffrage extérieur est fondamental. Alors, la réception des critiques patentées est importante parce qu'elles sont ce sont les médiateurs. Donc, quand on entend un critique vous critiquer, ne pas aimer... C'est doublement douloureux parce que bon, c'est douloureux parce que c'est jamais agréable, mais surtout on se dit zut, des gens vont le lire et de ce fait ne vont pas me lire ou vont l'entendre et de ce fait ne vont pas venir ou pas. Donc c'est bien sûr que ça, on est très sensible, on est ridiculement sensible à ça d'une façon exagérée. Et d'ailleurs, un bon papier, une bonne critique pèse rien à côté d'une mauvaise. Pourquoi on est comme ça? C'est ainsi.
Et les lecteurs, quel type de rapport vous avez avec eux? Vous disiez, vous écriviez, l'effet il devait être produit sur vous-même. Est-ce que ça reste une entité mystérieuse, le lectorat? Ou est-ce qu'il y a une matérialisation? Alors, vous êtes devant une salle pleine de gens venus vous écouter. Yasmine Areza, c'est donc...
Je ne les vois pas beaucoup, les lecteurs, parce que je ne fais pas de signature. Je vais nulle part, je vais jamais dans les salons, je fais pas de télé, ça n'a rien à voir avec les lecteurs, mais enfin, je réduis au minimum ma relation avec le public. Je n'aime pas la relation avec le public. Parce que c'est un public.
Rire dans la salle.
Non, mais. Il y a une phrase de Pavès dans le journal, il dit le drame de. C'est que, en se parlant à lui-même, c'est que tu cherches des âmes sœurs et tu ne trouves qu'un public. Mais c'est vrai, le public... Non, c'est vrai, j'aime pas le public. Je le dis franchement. Je suis extrêmement heureuse quand je vois que des gens viennent voir mes pièces, sont là, je leur suis reconnaissante, ils ont payé leur place, ont acheté les livres. Tout ça, je suis extrêmement reconnaissante et heureuse de ça, mais je ne veux pas les rencontrer. Parce que je n'ai pas besoin de ce rapport-là. Non, j'en ai pas besoin.
Autre type de réception, je l'ai évoqué au début de cette masterclass, Yasmine Areza, ce sont les nombreux prix que vous avez reçus en France, aux États-Unis, en Grande-Bretagne. Est-ce que vous y êtes sensible aux prix, aux récompenses?
Pas tant que ça. Pas tant que ça. Non, il y a eu certaines récompenses où j'étais très heureuse parce qu'elles étaient vraiment inattendues. Comme le Tony Award. Tony Award, c'était... Très franchement, je suis allée à New York, j'ai mis la robe magnifique, c'était déjà être nominée était inouï. Et c'est un prix très prestigieux là-bas. Hein. On ne se rend pas compte parce qu'on... Les Tony, ça consacre pas seulement le théâtre, mais ça consacre toutes les comédies musicales. Donc c'est le show le plus vu en télévision, plus que les Oscars, qui sont très embêtants à regarder en télé. Alors que le Tony Award, vous êtes là avec Elton John, tout ça, c'est vraiment le glamour à l'état pur. Moi, j'aime le glamour. Donc, tout ça était... Quand j'ai entendu mon nom pour Art la première fois, j'étais très, très heureuse. Très heureuse où j'accédais à quelque chose de vraiment inattendu. Mais sinon, je sais trop comment c'est fait, les prix. J'ai moi-même eu la folie d'être dans ma vie quand même une ou deux fois dans des jurés. Vous pouvez plus croire à rien après ça. quand on est l'heureux destinataire d'un prix, moi j'étais le Renaudot, j'étais très contente pour le livre, ça a doublé les ventes du livre. Et ça, franchement, c'est une bonne nouvelle. Mais je ne peux pas tirer orgueil d'avoir eu le Renaudot, ce serait une folie. Ce serait pas raisonnable, surtout.
Et le deuxième Tony Award,
vous étiez... J'étais encore plus contente du deuxième, parce que c'était encore plus improbable. J'étais très heureuse de ça. Voilà, j'avais fait le voyage avec ma mère qui était malade et qui était contente. Enfin bon, c'était, vous voyez... Puis dans les prix de théâtre, il y a ce côté... léger. C'était pas... Vous avez ce prix le lendemain du... Je me souviens, le lendemain du Tony Award, je m'étais dit... J'avais repéré une paire de chaussures à New York. Chaussures qui coûtaient une fortune. Si j'ai le Tony, je vais les acheter. Et le lendemain, évidemment, j'étais dans le magasin. Et le type qui me fait essayer les chaussures me dit vous avez une très jolie robe au Tony hier. Il l'avait vu parce que tout le monde regarde à cause des comédies musicales. Et vous voyez, ça, c'est l'inattendu de la vie. J'étais vraiment très contente. Mais moi, ça rejoint ce que je vous dis. J'aime la vie. C'est pas les honneurs. Les honneurs en soi. Ça tient pas très chaud, quand même.
Alors, ce qui tient encore moins chaud, c'est la question de la postérité, Yasmina Reza. Mais vous l'avez évoqué quand même en filigrane au cours de cette masterclass. Est-ce que c'est une question qui se pose pour vous, ce qui restera de vous ?
Je vais essayer d'être honnête, mais...
Nous vous en prions.
Mais je crois pas. Je crois que je m'en fiche complètement. Ce que j'aimerais... c'est que ça reste... ce que j'ai fait reste valide du temps de la vie de mes enfants. Je n'aimerais pas, et je pense que ça n'a pas grand-chose à voir avec la postérité, je n'aimerais pas, parce que ça va vite de tomber en désuétude, très très vite, que mes enfants, quand ils auront mon âge, que je ne serai plus là, se disent... plus personne ne la lit, ou plus, ça me ferait plaisir qu'ils aient encore l'impression que j'ai eu une petite postérité. Voilà. Mais bon, peut-être qu'ils s'en foutront quand même. Mais voilà, pour eux, j'aimerais bien que ça dure un petit peu, ce qui n'est pas sûr du tout, parce que ça va très vite d'être oublié. Et après, qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse ? Je pense que c'est quelque chose d'assez masculin, la postérité. J'ai l'impression que les femmes sont moins... Il me semble.
Bon, on va faire un sondage avec ces masterclass, on verra.
Oui, demandez-leur aux autres.
Le pourcentage d'hommes qui sont intéressés par cette question. Mais ça pourrait revenir à vous demander autrement, Yasmina Reza, est-ce qu'il y a une œuvre, alors qu'elle soit théâtrale, romanesque, que vous aimeriez voir passer à la postérité dans ce que vous avez écrit à ce jour?
Non, je ne peux pas répondre à ça. Parce que
il n'y en a pas une pour laquelle vous avez une tendresse, une affection, une estime presque, qu'on pourrait dire, d'une personne particulière?
Et j'ai des choses préférées, mais j'aime beaucoup Adam Aberberg, mais pour des raisons intimes. Ce n'est pas nécessairement, si je devais, sur une île déserte, sauver un texte, c'est peut-être pas celui-là que je... Mais c'est très difficile de... Parce qu'on change d'avis. Je n'ai pas toujours aimé les mêmes choses dans ce que j'écris. C'est pas tout... En fait, on aime aussi beaucoup le dernier.
Le prochain.
Et on s'apprête à aimer beaucoup le prochain. Oui, je pense qu'il y a... C'est pas sérieux de demander à un auteur... Enfin, c'est pas la question qui est pas sérieuse, mais je veux dire, c'est pas sérieux de... Non, mais c'est vrai, c'est pas sérieux de... C'est très fluctuant. Il m'est arrivé, par exemple, je pouvais plus supporter cette pièce. Je pouvais plus la supporter. J'entendais des choses sur cette pièce qui me déplaisaient, ce succès avait à côté... je rencontrais des gens qui ne m'étaient pas du tout sympathiques, qui avaient adoré, qui m'en parlaient, enfin, il y a quelque chose qui ne va pas du tout. Et puis j'ai laissé tomber un peu la pièce, je ne l'ai plus revue pendant des années, c'était derrière moi, elle continuait à vivre sa vie sans moi. Et puis je suis allée voir une production espagnole, Argentine, mais qui faisait une tournée en Espagne, qui était d'une qualité fabuleuse et qu'on m'avait dit, va voir, vas-y, parce que c'est très bien. Et c'était très, très bien. Et je suis sortie et j'étais avec mon agent de l'époque, Marie-Cécile Renaud, et je lui ai dit, mais elle est formidable, la pièce. Et Marie-Cécile me dit, ben oui, mais je le redécouvrais. Enfin, je le découvrais, en réalité. Et vous m'auriez posé la question encore un an avant, ou même un jour avant, j'aurais dit oui, enfin bon, c'est quand même... C'est pas ce que j'ai fait de mieux. Donc, c'est pas... On n'a pas... On peut pas choisir ce qu'on, dans ce qu'on a écrit.
C'est le public qui choisira.
Ou pas, parce que... Enfin, qui choisira... Qui a choisi déjà, qui choisit tout court. Vous faites des choses que vous croyez formidables et puis vous les vendez un exemplaire, d'autres choses vous aimez moins, ça marche du tonnerre de Dieu. C'est impossible de... Le verdict public, pour moi, n'a aucune autorité. Alors là, encore moins que le mien.
Que les choses soient claires.
Ah ben non. Mais non, parce que le public... les mêmes gens vous disent, j'ai tellement aimé votre tel livre et j'aime aussi beaucoup. Et on va vous citer quelqu'un que vous détestez à côté. Et donc ça jette une ombre immédiate. Moi, j'ai vécu ça tellement de fois. Donc je sais que c'est pas sérieux non plus. Heureusement que je ne fais pas ce genre de choses tous les jours. Vous avez vu que
je me laisse aller.
Je me laisse aller à des...
Vous avez retenu le nom juste à temps.
Non, non.
Les noms possibles, non, non. La liste.
Non, mais quand je dis, je veux juste préciser. Non, non, laissez-moi juste préciser une chose. Quand je dis, je n'aime pas le public, c'est-à-dire l'entité, que ce soit bien clair,
l'entité
publique. C'est pas après individuellement, évidemment ça n'a plus rien à voir. Mais l'entité du public m'effraie.
Merci beaucoup, Yasmina Reza. Merci beaucoup au public composé d'individus venus vous voir.
Merci
ce soir.
Beaucoup.
Merci beaucoup.
Merci.
C'était la masterclass de Yasmina Reza avec Arnaud Laporte. Attaché de production Mathieu Maroudin, coordination Arnaud Laporte, réalisation Olivier Guérin.